En fait, bon, j'ai pas eu du tout le temps de vous parler de ce qu'on a fait cette année. Donc, on va développer un des aspects, c'est donc le tutorat, qui a donc été retenu par l'inspection académique comme étant un des axes de travail pour l'année. Donc, avec ce qui veut dire le tutorat, l'implication beaucoup plus importante du collège. Et notre idée, c'était donc que ça se passait pas simplement pendant et qu'ensuite le retour, avec un suivi qui était très aléatoire, voire pas de suivi du tout les années antérieures, ça se prépare en amont. L'idée, c'est vraiment, c'est une continuité. Donc il faut bien penser l'amont, pendant et après. Il y a des élèves qui, d'ailleurs, au niveau de leur établissement, ont déjà eu un certain nombre d'accompagnements avant que la solution de la session au dispositif relais soit retenue. Mais c'est important de savoir ce qui s'est fait. C'est important de savoir si le tuteur était déjà responsable de l'élève avant, etc. Et en fait, ces informations-là, finalement, j'ai l'impression qu'elles ne figurent pas forcément dans le dossier d'admission, et en particulier pour les élèves qui sont mobiles d'un établissement à l'autre. Il y a des élèves qui peuvent être poly-exclus, qui finissent à un moment donné, et par arriver dans un dispositif relais, il y a toute cette mutualisation à faire. Alors, le deuxième axe de travail c'était les outils pour améliorer les relations et en particulier donc les outils pour le dispositif tutoral. Alors, je vais vous présenter donc un certain nombre de choses qu'on a utilisées pour cette phase 3. Alors, la première chose, c'est les questions quand on a eu des entretiens donc avec les tuteurs et avec tous les acteurs des DR cette année, y compris le binôme. On a eu cette année des entretiens binôme coordonnateur principal du collège support. On a fait systématiquement pour impliquer réellement les principaux des collèges de support du DR. Et puis, on a interrogé aussi parfois les élèves sur le choix du tuteur. Et là, on s'aperçoit des limites parce qu'il y a quand même beaucoup d'élèves qui ne comprennent pas bien qui est leur tuteur. C'est-à-dire que il y a vraiment un travail de fond à conduire là-dessus. Alors, évidemment, comme on est dans la phase 3 de la recherche-action, ensuite, ça ne va plus être nous, ça va être le comité de pilotage départemental qui se met en place et dont va vous parler Madame Derrière cet après-midi, qui va prendre le relais. Mais dans ce que je vous présente, il y a beaucoup plus de pistes de travail que de certitudes. Enfin, je veux dire, c'est pas les choses sont pas déterminées précisément. Alors, les questions qu'on a posées et qui me semblent importantes à avoir en tête quand il y a le choix du tuteur qui se pose. Alors, la question de qui va être professeur principal, est-ce que c'est forcément le professeur principal? Est-ce que c'est un prof d'une autre discipline? Est-ce que c'est le CPE? Il y a des établissements où c'est très souvent le CPE. Est-ce que ça va être le principal adjoint comme on a vu? Il y a aussi des lieux où peut-être parce qu'il n'y a pas de volontaire ou parce que l'équipe enseignante n'en peut tellement plus qu'elle se retire et qu'elle ne veut pas s'investir par rapport à l'élève. Donc il y a au niveau des enseignants, il n'y a pas de volontariat. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui est volontaire ou pas? Est-ce que c'est pas présenté parfois comme étant une obligation du professeur principal? Mais ça change aussi après les relations qui vont s'établir. Comment est-ce que ce choix a été fait? Est-ce que ça a été fait de manière formelle ou informelle? Est-ce que c'est plutôt au niveau de l'équipe éducative ou au niveau de l'équipe pédagogique? Est-ce que l'ensemble des enseignants ont été associés ou non au choix du tuteur? Et on peut aussi avoir l'hypothèse, c'est qu'il y ait deux volontaires pour un élève. C'est pas invraisemblable complètement. Quel est le rôle du principal ou du principal adjoint dans tout ça? Est-ce qu'il représente simplement l'établissement? Est-ce qu'il est le porte-parole de l'équipe pédagogique ou éducative lors de la commission de recrutement? Au niveau du dossier, ça renvoie quand même, au niveau du choix là, du tuteur, ça renvoie à la question du profil des élèves qu'on envoie en DR, de la commission de recrutement. Est-ce que c'est très aléatoire, très décentralisé ou est-ce que c'est centralisé? Madame Derrière va y revenir cet après-midi. On a observé aussi une grande hétérogénéité, et pas simplement si c'est atelier ou classe. Les frontières ne sont pas forcément là. Elles peuvent être sur certains territoires où parfois les difficultés de recrutement sont telles que du coup, on élargit un public qui, a priori, ne relèverait pas du dispositif relais. Donc, évidemment, ça complexifie les choses. Et le retour, ben, il est quand même beaucoup plus hypothéqué. En fait, je dirais que c'est très mouvant. Quand est-ce que ce choix du tuteur a été opéré? Est-ce que ça préexistait à la session? Ou est-ce que ça a été vraiment au dernier moment, voilà, l'élève est accepté en DR et tout d'un coup, il faut qu'on trouve un tuteur et ça se négocie autour d'un café en salle des profs? Je n'exagère pas beaucoup quand je dis ça. Je pense qu'il y a des cas où c'est à peu près comme ça. Et comment ça se joue après? Est-ce que les choses sont clairement établies avec le tuteur sur à quoi il sert, la durée du suivi qui aura lieu, etc. Question aussi, est-ce que l'élève est d'accord avec ce choix? Comment on l'associe au choix? Il y a multiples possibilités. Et est-ce que le tuteur vient ou non à la commission de recrutement? Ça, c'était des questions de base. Ensuite, sur les modalités concrètes, c'était notre deuxième entrée dans les entretiens. Donc, les rythmes des rencontres et des lieux. Est-ce que le tuteur rencontre l'élève? Où? Quand? Qu'est-ce qui s'y fait? Est-ce qu'il rencontre la famille? Est-ce qu'il rencontre les acteurs? Donc, c'est la question des rythmes et des retours aussi par rapport à ses collègues de l'établissement, le reste de l'équipe pédagogique, par rapport à l'équipe de direction. Comment ils rencontrent, de quoi ils rencontrent, etc. C'est aussi, j'ai insisté tout à l'heure un peu lourdement peut-être, mais sur le rôle de la classe. Comment est-ce que le tuteur travaille ce qui se passe au DR avec l'élève? Est-ce qu'il rend compte de ses rencontres avec l'élève, du travail fait par l'élève au DR? Parce que très souvent, lors du retour, l'élève, s'il joue un peu au caïd, il prétend qu'il n'a pas travaillé du tout, que c'était super, qu'il faisait ce qu'il voulait, etc. Ce qui est complètement faux. Mais voilà, donc il y a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire que là, pas complètement.
Non, c'est en partie vrai.
Mais voilà, et en tout cas, il y a des... Donc, qu'est-ce que le tuteur peut faire passer tout au long de la session, pendant chaque semaine, pour maintenir ce lien? La question, c'est maintenir un fil conducteur pour qu'il n'y ait pas de rupture, qu'il n'y ait pas simplement une éviction ou une exclusion sous cette forme, que l'élève sorte vraiment de la classe et puis tout d'un coup, un jour, il revient. Et entre-temps, il ne s'est rien passé, on n'a pas travaillé. Qu'est-ce que le tuteur peut faire par rapport à ça? Il y avait la question, donc, qu'est-ce qui se dit pendant le tutorat? De quoi on parle? Est-ce qu'on parle, donc avant, pendant, après, toujours, cette idée de continuité. J'insistais toujours lourdement sur le fait qu'il ne faut pas qu'on ait l'impression que tout le monde est quitte une fois que l'élève est revenu au collège. On n'est pas quitte, ce n'est pas fini. Je dirais que c'est là où le processus de raccrochage doit commencer et il ne faut pas lâcher. Quelle place dans les contenus d'apprentissage dans les entretiens? Quelle place pour les items du socle commun et en particulier pour les élèves de 4e, 3e? Sachant que l'hypothèse de départ pour nous, c'était vous en choisissez très peu, mais quelque chose de précis pour que ce soit explicite et clair pour tout le monde, qu'on va travailler sur des contenus de savoir. Est-ce qu'on parle des devoirs ou des leçons faits en classe et à faire à la maison? Comment est-ce que c'est travaillé par le tuteur dans ces temps de rencontre avec l'élève? On a observé pour le moment, essentiellement pendant ces temps de rencontre, des échanges sur le comportement, les progrès sur l'attitude, le comportement, et puis la ponctualité, etc. Très peu sur le volet apprentissage. Est-ce qu'il reste des traces écrites de ces temps de tutorat qui pourraient d'ailleurs permettre d'informer à la fois les familles et puis aussi les collègues? Et puis, notre question, c'était les tuteurs qu'on a rencontrés et puis même les coordonnateurs, est-ce qu'ils voyaient que les tuteurs, qu'est-ce qui leur posait problème? Qu'est-ce qui serait nécessaire pour améliorer, qu'ils se sentent plus à l'aise dans cette fonction et qu'ils ne rechignent pas à se réinvestir? Parce qu'être tuteur, ça demande beaucoup d'investissement, une fois ultérieur. Alors, qu'est-ce qui est ressorti de tout ça lors du séminaire 2 que nous avons eu donc en janvier? J'ai pas eu le temps de l'expliquer tout à l'heure, mais cette année, nous avons travaillé sur deux autres ateliers relais, sur donc deux axes de travail, le tutorat et les outils de suivi, dont le bulletin et le carnet de suivi. Et puis, nous avons eu trois séminaires dans l'année. Le séminaire 2, c'était donc en janvier, et on a eu des ateliers où il y a eu des tuteurs qui sont venus, et il y a eu des échanges extrêmement intéressants sur comment ça se vit du côté aussi tuteur. C'est-à-dire qu'on avait dépassé simplement les personnels des dispositifs relais et on avait associé des profs lambda qui, pour la plupart, vivaient leur première expérience de tutorat. Qu'est-ce qui était simple et qu'est-ce qui n'était pas? Et un des tuteurs nous a dit sa grosse difficulté pour lui à être à la fois professeur principal et tuteur. Et j'aimerais bien que vous puissiez échanger là-dessus. Alors, s'ils sont dissociés, alors il y a des avantages. Je pourrais vous laisser ça si vous voulez. Et si, parce qu'il faut qu'on ait le temps de faire les ateliers, donc je vais pas relire tout ce qu'il y a là. Si le PP est aussi le tuteur de l'élève. En fait, les chefs d'établissement voient plutôt le côté intéressant du PP tuteur parce que c'est une fonction qui est institutionnalisée, le professeur principal. Il y a les heures de vie de classe. Il a une légitimité par rapport aux élèves, par rapport à l'administration et par rapport aussi à ses collègues. Si c'est un tuteur volontaire, qui peut être un prof, de n'importe quelle discipline, avec lequel, qui a envie d'aider l'élève et que l'élève apprécie, mais qui, par exemple, si c'est pas considéré comme étant une discipline ou si cette personne-là n'a pas une aura suffisante dans l'équipe, comment est-ce qu'elle est acceptée? Comment est-ce qu'elle arrive à faire passer auprès des autres les informations qu'elle a à faire passer? Comment est-ce qu'elle peut préparer le retour? Et la question de certains des tuteurs, c'était, mais moi, je suis pas très à l'aise par rapport à mes collègues. Comment je peux arriver à convaincre mes collègues que l'élève, il a progressé, que c'est pas magique, mais qu'il y a des points sur lesquels on peut s'appuyer. Il a progressé scolairement aussi sur certains contenus de savoir, etc. Bon. La difficulté, c'est aussi la difficulté de travailler en équipe dans les collèges. C'est-à-dire, ça renvoie en fait au fonctionnement des établissements. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'un élève et un professeur soient épaulés par l'ensemble d'une équipe? Il faut aussi savoir que la charge après la session, elle est importante. Il nous semblait à nous qu'il fallait suivre l'élève au moins jusqu'à la fin de l'année. Mais il me semblerait intéressant que, selon l'âge de l'élève et la façon dont lui exprime son besoin, il y a un suivi encore les années. Un élève, par exemple, de 6e ou de 5e, je ne suis pas certaine que la fin du tutorat, la fin de l'année scolaire, soit suffisante. C'est-à-dire qu'il faut... Mais ça se discute. Et les élèves sont capables de dire s'ils ont besoin, s'ils apprécient ces temps d'échange avec un adulte référent. Et je pense que dans ce que vous entendrez sur les micro-lycées, par exemple, demain, confortera cette idée que les élèves ont besoin. Ils ont besoin d'adultes qui les accompagnent. Voilà. Mais ça ne va absolument pas de soi dans les collèges ordinaires. Hein. C'est un plus quand on est très content quand ça fonctionne, mais ce n'est pas massivement le cas. Alors, est-ce que les personnes du DR reviennent aussi au collège? Alors, c'est une question qui s'est posée. Et ça renvoie à la question de tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce que le coordonnateur arrive à se libérer pour ça? Mais s'il peut se libérer, ça veut dire qu'il ne fait pas les deux tiers de temps d'enseignement, etc. Donc, mais ça peut être... ça doit se piloter. C'est-à-dire que je pense que dans les DR, si la question du tutorat et des liens entre le collège d'origine et retour et puis le DR est posée comme étant essentielle, au niveau du pilotage, ça peut entraîner la décision que le coordonnateur, il va consacrer, telle demi-journée ou tant d'heures de son emploi du temps à ces liens-là, à ce travail-là, avec un suivi des élèves. On nous a raconté que, par exemple, les élèves, sans que ce soit formalisé, mais simplement le fait que une des personnes du DR leur ait dit « Mais on prendra de vos nouvelles pendant 2 ans » parce qu'en fait, il y a des obligations au niveau des statistiques nationales de savoir ce qu'ils deviennent. En fait, c'est les suivis de cohorte, quelque part. Hein. Donc, du coup, un adulte qui dit ça à un jeune, « Ah bon, vous occuperez de moi encore après ?» Et ces élèves-là téléphonent parfois au DR en disant là, ça va pas, il y a quelque chose, j'y arrive pas, est-ce que je peux en discuter, etc. Ça veut dire que le maintien du lien, ça peut être aussi dans ce sens-là. Mais il ne faut pas s'interdire, en tout cas, que les gens des DR puissent aussi aller dans le collège, même ça peut être 15 jours après, mais ça peut être le mois suivant, ça peut être 3 mois après, ça peut être 6 mois après. C'est-à-dire que c'est toujours la question du lien. Il faut que l'élève puisse avoir des liens, des repères dans la durée. C'est souvent des élèves où les choses sont morcelées et instables. Il faut créer de la stabilité. Alors, là, je vais vous présenter le travail d'une collègue qui est coordonnatrice simplement depuis cette année, qui a fait un travail remarquable sur un atelier relais donc de Villefontaine, c'est Isère Nord, je crois, sur le dispositif tutoral. Et elle nous a fait donc au séminaire 3 une présentation de ce qui, pour elle, fonctionnait bien et puis ce qui fonctionnait moins bien. Alors, ce qui fonctionnait bien, l'identification du tuteur le jour de la commission. Et ce qui fonctionnait bien, c'était que l'élève ait été associé au choix. Ce qui fonctionnait bien, parce qu'ils ont réussi, grâce au principal du collège support, et c'est là aussi où le binôme est important, qui connaissait tout un ensemble d'enseignants, et qui repérait les profils de ces enseignants. Le principal avait réussi à convaincre une collègue de maths et une collègue de français d'intervenir dans les DR, c'est-à-dire des gens expérimentés qui viennent intervenir dans le dispositif relais, 2 heures semaine. Et le fait que ça ait été demandé par une principale, même quand les relations n'étaient pas forcément évidentes, mais il y avait une demande institutionnelle. Ce n'est pas le coordonnateur qui va à la pêche d'intervenants. C'est le principal du collège support qui demande à des enseignants d'intervenir. Et le fait que ce professeur ait expérimenté et spontanément dit « mais moi je ne peux pas, j'ai par exemple 6 élèves dans cette session », je veux savoir où ils en sont et je veux surtout savoir ce qu'ils vont faire en classe les autres pendant ce temps-là. Que fait la classe pendant ce temps-là ? Et elle s'est mise en relation avec les collègues des différents établissements, par mail ou par téléphone, pour travailler au plus près des besoins. Et elle a demandé à ce qu'il y ait des points précis sur une sorte de document, le programme qui était travaillé en ce moment, ce qui allait travailler pendant la session et ce sur quoi il travaillerait au retour de l'élève, pour anticiper. Et que ça, quand ça a été mis en place, parce que le professeur était expérimenté et était en mesure de tenir ça, ça a très très bien fonctionné. Et du coup, pour l'élève, c'était un plus. Et certains élèves ont même dit, pourquoi on a aussi peu de maths pendant la session ? Parce qu'ils avaient en face d'eux un adulte qui a réussi à répondre aux besoins et à rétablir un lien à travers des apprentissages. Moi, j'ai assisté à une séance avec ce professeur. J'étais simplement observatrice. Ça fonctionnait. Et elle a même réussi à créer du lien à travers une enquête qu'elle a renvoyée sur l'utilisation d'Internet par les élèves. Et ensuite, elle a travaillé sur le recueil des données pour travailler sur Excel, etc. Les questions ont été envoyées à la classe via le blog du dispositif relais. C'est-à-dire que c'était aussi un moyen de maintenir un lien avec la classe. Alors, ce qui fonctionne bien aussi, c'est la visite du tuteur à l'atelier relais. Et Fanny nous a dit que quand c'est souvent, pas tout systématiquement, mais souvent, il y a eu 2 visites du tuteur. Donc, au moins une où l'élève est observé en activité, c'est-à-dire en train de travailler, et pas simplement dans un entretien comme ça, dans un coin à part. Ce qui a bien fonctionné, c'est l'envoi au tuteur par mail d'un bilan concernant l'élève, parce que le mail permet de transmettre plus facilement. Mais il me semble, le regard qu'on avait, nous, de l'extérieur, c'est que le mail est nécessaire, mais il n'est pas suffisant si préalablement, il n'y a pas eu des contacts d'établis de visu, c'est-à-dire une connaissance des uns et des autres. C'est-à-dire que le tuteur doit d'abord être venu au DR, rencontrer le coordonnateur, et c'est vrai que cette coordonnatrice-là se déplace beaucoup dans les collèges. Et maintenant, fin d'année, alors que c'était sa première année, on s'aperçoit qu'il y a des établissements qui, pour l'année prochaine, commencent à dire « on a 1 ou 2 élèves, est-ce que… » pour etc. et qui contactent directement le DR avant même de monter le dossier. C'est-à-dire qu'on a une sorte d'inversion de l'offre et de la demande parce que, quelque part, le DR a prouvé qu'il avait une certaine efficacité et que les relations établies étaient sérieuses. Je pense, Myriam peut me confirmer, c'est vraiment on était très contente que au moins l'expérimentation de cette année ait amené à ce que ça, dans ce dispositif-là, il progresse de cette façon-là. Alors, ce qui existe et qui fonctionne plus ou moins bien, c'est la difficulté à ce que la famille puisse venir à chaque fois qu'il y a une rencontre avec le tuteur. Alors, ce qui était observé, c'est qu'il y a énormément d'enfants dont les parents sont séparés, avec énormément de conflits entre les uns et les autres. Donc, ça facilitait pas la présence des familles. Elle était dans un secteur où l'éloignement géographique était important, avec des élèves qui étaient, par exemple, à 45 minutes Le collège d'origine était à 45 minutes. Il habitait à 45 minutes du DR. Donc, en milieu rural, c'est plus compliqué. Et puis, le problème des contraintes professionnelles, évidemment. Ce qui fonctionne plus ou moins bien, donc le blog par les tuteurs et les autres professeurs pour communiquer avec l'élève. Ce n'est pas encore quelque chose qui devient systématique et si évident que ça. L'autre difficulté, c'est les compétences en travailler dans les autres matières, puisque là, ça se passait bien parce que la prof de maths qui intervenait à la session était demandeuse et savait comment elle pouvait fonctionner. C'était très clair dans sa tête. Bon, ce n'était pas le cas pour les autres disciplines. Et par exemple, la coordonnatrice qui a une formation en sport, elle enseignait l'anglais. Donc, difficulté aussi à se positionner par rapport à ça. Et puis, ce qui fonctionne plus ou moins bien, c'est bien sûr dans le suivi des élèves par l'atelier au relais, au-delà de la session, à cause aussi des problèmes de disponibilité. Et je reviens à ce que j'ai dit déjà plusieurs fois. Alors, ce qui ne fonctionne pas ou qui n'existe pas, mais qui, de leur point de vue, serait nécessaire, c'est la réunion des tuteurs en amont de chaque session. C'est-à-dire que tous les tuteurs puissent se retrouver et qu'ils travaillent collectivement au DR sur ce qui va être fait pendant la session, la façon dont ça peut fonctionner et les relations s'établir. Le contrat de tutorat prof-élève qui n'est pas forcément utilisé, qui est en gros plutôt assez formel. Quand il est signé ou s'il n'est pas signé de manière un peu rapide, on va dire, hein, pour ne pas dire plus. La difficulté à ce que des professeurs autres que le tuteur viennent aussi à l'atelier relais. Alors il y a eu, et ça c'est très important, ça a été souligné par des élèves et par les coordonnateurs, lorsque des chefs d'établissement de collège d'origine venaient rencontrer l'élève au dispositif relais, c'était aussi un plus parce que ça voulait dire qu'on s'intéressait à l'élève aussi au plus haut niveau dans l'établissement. Et qu'à ce moment-là, les relations étaient beaucoup moins formelles. C'était pas, il est convoqué dans le bureau parce qu'il y a encore eu un problème d'exclusion ou il y a encore eu tel ou tel type de problème. C'est là, c'est le chef d'établissement qui se déplace pour voir comment va l'élève, ce qu'il fait, ce qui se passe bien, etc., etc. Il n'y a pas besoin que, enfin, ça soit très long. C'est pas forcément une demi-journée pleine. Mais c'est le fait de se déplacer et de marquer de l'intérêt. Et puis, ce qui est plus compliqué, c'est alors la rencontre tuteur-élève au collège d'origine. Je vous l'ai dit tout à l'heure comme exemple. Alors, c'est quel lien l'élève... Est-ce que l'élève retourne pendant la session dans son collège d'origine? Si oui, à quel moment et pour y faire quoi? Est-ce que c'est simplement pour dire bonjour au concierge, j'ai récupéré des devoirs? Sans plus, est-ce que c'est pour aller parfois une demi-journée, mais il va rester à la vie scolaire au bureau des surveillants et pas faire grand-chose d'autre? Est-ce qu'il va être intégré en cours et pour y faire quoi, etc. Bon, est-ce qu'il rencontre son tuteur là-bas, etc. Alors c'est vrai que pour le tuteur, c'est compliqué à gérer, mais bon. Je n'ai pas parlé aussi de la rémunération des tuteurs, mais c'est un point qui est apparu, c'est-à-dire qu'il y a des... principaux qui nous ont dit que eux, ils estimaient que vu la charge de travail du tuteur, ils pouvaient le rémunérer en HSE sur les volets d'HSE qu'ils ont de libre pour les projets. Bon, évidemment, s'ils avaient 20 élèves en dispositif relais pour l'année, ça serait compliqué. Bon, en général, ils en envoient quand même pas plus de 1, 2, 3, voire, enfin, c'est rarement, ça va rarement au-delà par établissement. Donc, rémunérer pour l'investissement et le temps passé des collègues qui ont vraiment fait un gros boulot de tutorat, c'est pas complètement une vue de l'esprit, c'est faisable. On en a discuté l'année dernière, les chefs d'établissement étaient d'accord et quand ça se faisait une sorte, c'était un peu spontané, mais ça pourrait être formalisé. Et je dirais, nous l'avons suggéré d'ailleurs au niveau du pilotage, que ce soit rappelé au chef d'établissement. J'avais les documents que je pourrais les faire circuler, que Fanny nous avait proposé sur le contrat d'engagement mutuel élève-tuteur, la fiche de suivi prof-élève lors du retour progressif, et puis un document sur les attentes de l'élève pour son retour au collège, par discipline, savoir comment il appréhendait. Est-ce que avec cet enseignant-là, il pensait que ça allait être facile ou pas? Pourquoi? Les relations qu'il avait avant? Comment est-ce qu'il anticipait? Qu'est-ce qu'il prenait comme résolution pour essayer d'améliorer, qu'il n'y ait pas d'affrontement dès les premières heures de cours, etc. Voilà, un certain nombre de documents, mais ça fait partie aussi des outils qu'elle a construits cette année. Et l'important, c'est de savoir que c'est évolutif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas figé. Et à chaque fois qu'il y a un contexte différent pour un élève différent, il y a des choses qui se modifient. Ça a donc été modifié entre la première session, la deuxième, la troisième, et là, il commençait la quatrième. Et puis, ça va dépendre de quel niveau est l'élève. Est-ce que c'est un sixième, un cinquième, un quatrième, un troisième? Est-ce qu'on va travailler sur plus ou moins sur ces aspects-là ou pas? Et ça va être aussi selon les relations qui s'établissent entre le collège d'origine et puis le DR. On a eu la semaine dernière, donc le séminaire 3, des exemples d'autres DR, où ils sont, le DR est pourtant à l'intérieur d'un collège où ça fonctionne très bien, les profs de l'établissement interviennent dans le DR, etc. Mais par contre, ils n'arrivent pas du tout à travailler avec les collèges d'origine, où on est sur la posture, bah vous le gardez, et surtout vous le gardez le plus longtemps possible. Voilà. Et donc, comment arriver à travailler ça? Une des pistes proposées par l'institution, on va dire, pour aller vite, c'est le travail en réunion de bassin. C'est-à-dire que pour arriver à mieux connaître le DR, c'est aussi le principal du collège support suffisamment impliqué par son DR qui vienne proposer à ses collègues de présenter. Mais bon, c'est pas forcément suffisant, mais c'est aussi une piste.